Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter différents métiers que on a pu découvrir lorsque nous sommes allés à l'Opéra de Tours le 16 décembre 2022. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer trois personnes qui ont chacune un poste au sein de l'Opéra, donc un éclairagiste, deux machinistes et un décorateur. Ils ont eu la gentillesse de chacun nous accorder un entretien où ils nous expliquaient en quoi consiste leur métier et quelle est leur importance au sein d'une représentation d'opéra.
Alors à présent, écoutons le témoignage de l'éclairagiste de Lyon et du Grand Théâtre, un homme passionné par son métier et qui a accepté de répondre à nos quelques questions.
Eh bien, bonjour, bienvenue à l'Opéra. À présent, merci. Je m'appelle Grégory, ça fait 17 ans que je travaille dans ce lieu. Je suis chef éclairagiste, je m'occupe de tout ce qui est lumière, de spectacle, sonorisation, vidéo. Et puis l'entretien général du bâtiment.
En quoi votre rôle est essentiel ?
S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de spectacle.
Comment vous faites pour trouver l'éclairage adéquat dans telle ou telle scène ?
Alors, je vous explique. Pour un opéra comme le Beaumont Bel Inconnu, on est exploitant, c'est-à-dire qu'on a un éclairagiste qui vient de l'extérieur, qui travaille avec le metteur en scène et qui nous envoie ce qu'on appelle un plan de feu. Un plan d'implantation, on va dire. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous voyez tous, vous pouvez vous le passer. C'est la salle, le plan de la salle, avec les projecteurs indiqués, leur numéro, c'est-à-dire c'est le numéro avec lequel il les appellera. Et nous, on installe, que ça soit sur scène ou dans la salle, on installe selon ses désirs. Et après, c'est tout ce qui est partie réglage, réglage lumière, par rapport à ce qu'il veut. En fait, c'est lui qui crée sa lumière. On en crée aussi sur certains événements. C'est nous qui sommes, on va dire, passés du côté de l'artistique.
Pensez-vous que vous êtes un artiste ?
Ouh, c'est un grand mot. Et en fait, on est tous un peu artistes dans l'âme. C'est-à-dire que vous prenez quand vous décorez votre chambre, par exemple, quand vous un intérieur, on est tous un petit peu la fibre artistique. On va éclairer un concert symphonique, ce qu'on fait souvent ici. En fait, c'est nous qui créons l'éclairage. Est-ce que c'est de l'artistique ou pas ? En tout cas, ça fonctionne. Le public est content.
Comment est-ce que vous réussissez à exprimer votre sensibilité artistique dans votre métier ?
Eh bien, en créant. Justement, quand on a l'occasion de créer des beaux éclairages, ben déjà, il y a une satisfaction personnelle et puis commune. Parce qu'en fait, je ne travaille pas seul dans l'opéra, enfin, que ce soit au service éclairage. Vous entendrez souvent, en fait, service électrique ou service éclairage. C'est la même chose, mais c'est l'ancienne appellation. On ne bosse jamais seul, en fait, on est une équipe, que ce soit machinerie, que ce soit construction de décors, que ce soit accessoires, que ce soit service éclairage. On bosse tous en co-comitance. Donc on est obligé de... Enfin, c'est une petite famille, en fait, on bosse tellement de temps. On bosse tellement d'heures ensemble qu'à la fin, en fait, on crée des affinités, des liens, comme des grands frères, des grandes sœurs. Enfin, voilà, c'est... Et puis je me souviens plus de la question, pardon.
Comment est-ce que vous réussissez à exprimer votre sensibilité artistique dans votre métier ?
Oui, en fait, voilà, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on crée nos décors ici, ceux-ci ont été faits exclusivement à l'Opéra de Tours. Bah, le peintre, admettons qu'il a fait la peinture, c'est pareil, il a le côté artistique. Nous, on va l'éclairer, on va la mettre en valeur par des éclairages. On est aussi là, comme on connaît bien le lieu, la salle, nos éclairages, enfin nos types de projecteurs. On peut très bien éclairer un petit peu, enfin oui, c'est le cas de le dire, éclairer l'éclairagiste pour lui dire, tiens, ça donnerait mieux avec cet outil-là ou sous cet angle-là plutôt que de faire comme tu veux. Donc on se permet d'essayer. Après, on n'a pas forcément, nous, un métier artistique, on y participe, mais c'est surtout technique, en fait.
Avec les nouvelles technologies, est-ce que le métier d'éclairagiste, qu'est-ce qui a changé ?
Il n'y a pas grand-chose qui a changé. En fait, il faut s'adapter aux nouvelles techniques. C'est-à-dire qu'on est passé sur du projecteur traditionnel, comme vous voyez en troisième galerie, à de la LED, comme vous voyez celui qui est sur pied dans la loge, au premier. Voilà, c'est un projecteur à LED, ça consomme moins, on peut faire beaucoup plus de choses avec, puisque les couleurs sont intégrées à l'intérieur. On va aller vers ça de plus en plus, enfin on espère, mais après c'est un coût, hein. C'est pas...
Au départ,
oui. C'est-à-dire qu'un projecteur traditionnel va coûter 600 euros, enfin, au bas mot. Un projecteur à LED va coûter 1200, 1300, voire jusqu'à 3-4 000 euros.
Et c'est quelle formation pour devenir éclairagiste ?
Alors, moi, je vais vous dire, je n'ai pas suivi de formation, j'ai appris sur le tas. À la base, je ne suis même pas éclairagiste, je suis sonorisateur. Voilà. J'ai fait de la vidéo. Enfin, la vie a fait en sorte que ben, je me dirige vers aussi bien le son, la lumière, la vidéo. Mais maintenant, il existe des écoles spécialisées. Ce qu'on n'avait pas, nous, à notre époque. Enfin, je ne veux pas dire que je suis vieux, mais à notre époque, ça n'existait pas. Donc, on apprenait sur le tas. Après, j'ai travaillé chez Disney. Donc, Disney, c'est une vitrine technologique. Parc Astérix, pareil. Donc, c'est formateur. Et puis, bah, faut prendre maintenant avec Internet. On peut avoir les renseignements beaucoup plus vite.
Vous travaillez pour la mairie de Tours ?
Oui. Oui, je suis agent municipal, on va dire. Enfin, on est tous.
D'accord. Et il y a un éclairagiste qui n'est pas vous et qui vient et qui fait une proposition, c'est
qui
ça ?
Qui fait une proposition,
et
en fait.
Vous la mettez en pratique ?
Nous, on la met en œuvre. D'accord. Voilà. Oui, oui. On la met en œuvre.
En faisant des propositions,
oui,
parfois.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, bon là, en l'occurrence, c'est une personne qui était déjà venue, donc on se connaît. Mm-hmm. Et puis, on a le temps de le faire. Il y a des fois, c'est un peu plus rapide. Le dernier spectacle qu'on a fait, donc Werther, on n'avait qu'une semaine pour faire tout ce qui est éclairage. Donc, en fait, c'est. Quand je dis une semaine, ça peut passer très vite. Hein. C'est régler tous les projecteurs qui sont sur scène ou dans la salle. On est une petite équipe actuellement. En fait, on est à la base, on était deux. Enfin, à la base, on est cinq. Là, on s'est retrouvé à deux. On vient d'embaucher quelqu'un, donc on est trois, mais qui est encore novice dans le métier. Donc, je vous laisse imaginer que les journées sont plutôt chargées.
Comment est-ce que vous avez découvert le métier d'éclairagiste ?
Je travaillais aussi au Club Med quand j'étais jeune, et j'étais disc-jockey en fait. Donc, j'ai vu les projecteurs, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça fait des beaux trucs. Il y a peut-être moyen de pousser la chose un peu plus loin. Et puis après, je me suis dirigé tout doucement vers la technique. Donc, dans le son au début, et puis la lumière, et puis la vidéo, et puis le montage vidéo, parce qu'on fait aussi du montage vidéo, on fait de l'animation, enfin voilà, c'est. Mais c'est purement par hasard.
Donc, éclairagiste, c'est pas que le travail sur les lumières.
Alors, si, la définition, c'est éclairagiste, c'est la lumière. Voilà. Après, c'est un sonorisateur ou c'est un vidéaste. Voilà. Mais on est une petite équipe, et du moins à l'Opéra de Tours, donc au service éclairagiste, éclairage, on est normalement cinq personnes. Là, on est trois, dont une personne qui n'est pas encore tout à fait autonome, puisqu'elle vient d'arriver, elle a commencé il y a deux semaines. Dans certains opéras, comme Bastille, comme Châtelet, vous avez dans certaines équipes, elles sont tellement nombreuses qu'en fait, les jardiniers ne rencontrent jamais les courriers. Et nous, on ne peut pas se permettre.
Ouais. Et vous qui avez l'habitude d'éclairer des spectacles, quelle est la particularité de ce spectacle-là, Oh mon bel inconnu ?
Je ne sais pas, j'en ai tellement vu, enfin, on en a tellement fait. Chaque éclairagiste, en fait, a sa méthode de travail. Beaucoup de fois, on voit la même chose. Après, c'est les couleurs utilisées, c'est.
C'est quoi le type de pièce le plus compliqué à mettre en œuvre au terme d'éclairage ?
Les décors fermés, c'est très dur à éclairer. Parce que pas facile d'accès. Et puis après, ça dépend du matériel qu'on met. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle les projecteurs automatiques. Plutôt que de monter avec une nacelle élévatrice, d'aller régler, lui donner une direction, en fait, on le fait à partir de la console lumière. Et puis, ça facilite le travail. Mais c'est pareil, c'est des objets qui valent une certaine somme à l'achat. Donc, c'est des investissements qui sont assez faramineux.
S'il y a une panne d'électricité pendant un spectacle ?
Ça arrive, malheureusement. On a eu des projecteurs qui ont éclaté en plein spectacle. On a eu coupure électrique générale. Quand vous connaissez bien le lieu, puis vous êtes obligé de bien le connaître, on peut réagir assez rapidement. Après, c'est pas non plus dans la seconde, mais... et puis après, ça peut être indépendant de notre volonté.
Est-ce que vous avez découvert la musique ?
J'ai découvert l'opéra.
L'opéra.
L'opéra. Enfin, petit, j'ai découvert l'opéra. Et puis après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai eu une période un peu plus rock, un peu plus variété. Et j'ai redécouvert, en fait...
En travaillant
ici. Mais on est... J'ai appelé ça un beau lieu, en fait. C'est vrai que le théâtre est dans son jus. Un peu vieillot, mais on est tellement heureux de... Et puis après, ça dépend des œuvres. Il y a des œuvres qui sont assez compliquées à écouter. Il y a d'autres œuvres comme Carmen, comme Les Noces de Figaro, enfin voilà, des airs connus. Tout de suite, ça donne une énergie supplémentaire, on va dire.
Ou à peu près sur la même question, est-ce que vous êtes heureux de pouvoir effectuer ce métier ?
J'ai travaillé à l'usine, et je peux vous dire que oui, c'est... Oui, c'est un beau métier, en fait, on change, c'est jamais la même chose. Même si le boulot en soi, on remet des projecteurs, on les re-règle, mais on rencontre des nouvelles personnes à chaque fois, c'est aussi des connaissances, C'est-à-dire on rapprend, les éclairagistes en fait ne sont pas toujours les mêmes, donc on a différentes manières de travailler, ce qui nous permet nous aussi déjà de nous adapter, parce que dans certains lieux ils ne veulent pas s'adapter. Hein. C'est-à-dire en fait c'est à l'éclairagiste de s'adapter, pas au personnel du théâtre. Nous on a la chance et puis la qualité de pouvoir dire on s'adapte et puis on est dans un but commun. Donc heureux, oui. Même si c'est un métier difficile, hein, faut pas croire. Vous voyez le lieu, hein, c'est-à-dire que si vous faites un chantier, admettons, au parterre, enfin à l'orchestre, et que vous avez oublié un outil au troisième, c'est-à-dire que les escaliers, vous les montez. J'ai un collègue qui s'amuse à ça et on fait à peu près 13 ou 17 000 pas par jour.
Voilà. Et aujourd'hui, quelles études on fait pour devenir éclairagiste?
Il y a des écoles spécialisées, l'ENSAT, du côté de Lyon. Enfin, il y en a un peu partout en France maintenant. Dans un métier comme le nôtre, il faut commencer à la base. Voilà. Il faut commencer par le plus petit échelon. Et puis, après, on gravit. Mais c'est surtout en expérience. C'est-à-dire qu'on sort sans expérience de l'école. On ne peut pas dire « je suis capable de faire certaines choses, mais pas tout ».
Il faut un apprentissage.
Un apprentissage, oui, oui.
Pendant quoi? Un an?
Moi, j'ai eu un apprenti qui est parti au mois d'octobre. 3 ans. Il faut de la volonté, il faut de la persévérance, il faut aimer apprendre. Et puis, pour mon expérience personnelle, j'ai fait quand même des grandes maisons, que ce soit Disney, Astérix, ou même au Club Med, il y a du très bon matériel. Quand je suis arrivé ici, je ne me suis pas dit, je vais les écraser par mon savoir ou quoi que ce soit. En fait, j'ai tout réappris. Pour la simple bonne raison que les méthodes d'éclairage ou de sonorisation, le travail que je faisais n'était pas du tout le même que ce qu'on fait ici.
En fait, le métier d'éclairagiste, ce qu'on fait dans le métier dépend du lieu où on est.
Du lieu et puis du matériel. C'est-à-dire qu'en fait, un opéra comme ceci, en fait, il va tourner en France. Donc il va tourner, il va aller à Paris. Et donc, suivant le lieu, en fait, l'installation ne pourra pas être la même. Par exemple, là, vous avez, derrière ce décor-là, vous avez des rideaux, vous avez des colonnes, et vous avez encore des rideaux, plus un cyclorama en plastique, derrière lequel on projette de la lumière. Le prochain lieu où il va être accueilli, en fait, il n'y aura pas de profondeur. Donc derrière, il ne pourra pas mettre de la lumière, donc il va la mettre devant. Donc c'est pour ça, avec l'éclairagiste, on a le temps. Donc on a fait des tests d'éclairage avec lui, pour savoir si ça marcherait dans telle ou telle condition. Donc il faut s'adapter.
Merci beaucoup pour cette entrevue.
De rien, avec plaisir.
On est là pour une petite présentation du métier de machiniste. En quoi consiste ce métier en gros?
Moi, c'est Célia Richard et je suis machiniste constructrice. Parce que je suis une fille.
Et moi, c'est Christophe Cadix, adjoint du chef constructeur et machiniste à l'Opéra de Tours. Alors, au Grand Théâtre de Tours, on est machiniste constructeur pour la plupart. Donc on a, en tout cas, moi et Célia, en l'occurrence, on a la double casquette. C'est-à-dire qu'on est machiniste sur le plateau et constructeur en même temps. C'est-à-dire que ce soir, on va travailler sur le plateau pour la première de « Au Mont Bel Inconnu ». Et en même temps, cet après-midi, on est à l'atelier en train de construire le prochain décor, qui en l'occurrence est Lucie. Donc déjà, ça va être la particularité au sein du Grand Théâtre de Tours. Et donc machiniste, ça consiste en quoi? Ça va consister à mettre tous les dispositifs techniques sur le plateau pour les représentations de spectacles. Donc mise en place de décors et manipulation durant les représentations. Mais c'est aussi de l'entretien, c'est aussi la mise en place de tous les instruments, le mobilier nécessaire, praticable, et salon d'orchestre pour les concerts symphoniques. Et constructeur, après, du coup, c'est tout ce qui est construction de décors.
Quelles qualités faut-il pour exercer ce métier?
Donc les grandes qualités, c'est la polyvalence, la créativité, de manière générale, et toujours avoir, être débrouillard, trouver le petit truc qui fera que le décor il bouge mieux, ou que, enfin, faut toujours avoir l'instinct de trouver la petite pépite, voilà. Il faut être super polyvalent. En l'occurrence, nous, on est sur le plateau et en bas à la fabrication, donc il faut avoir l'esprit assez ouvert sur l'art en général et être en accord avec les décorateurs, voilà.
Sans oublier savoir travailler en équipe. On ne peut pas faire un décor seul et on ne peut pas le manipuler tout seul. Et puis on doit compter les uns sur les autres. C'est simple, on ne peut pas ignorer quand on est au cintre qu'on manipule des décors qui peuvent être très très lourds et avec des collègues ou des artistes en dessous. Donc de toute manière, c'est la sécurité et un travail d'équipe super important. Bah.
Quand on est
au cintre.
Au cintre, alors qu'est-ce que ça veut dire?
Le cintre, en fait, c'est tout ce qui est manipulation de décors et appareil de levage sur le plateau. C'est tout ce qui va, c'est l'appareil qui va nous permettre d'appuyer ou de charger un décor. Donc appuyer, lever le décor, charger, le descendre.
Vous êtes pas devenu machiniste comme ça, donc vous êtes bien sûr allé au lycée, fait des lycées professionnels peut-être. Comment vous avez découvert ce métier? Qu'est-ce qui vous a intéressé?
Alors moi c'est un peu long. J'ai commencé par un bac STD2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués, en voulant me lancer dans la mode. Et quand j'ai fait ce bac-là, j'ai voulu me chercher un peu plus et approfondir ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais beaucoup le spectacle. Et dans le coin, une grande maison qui travaillait de la couture, je me suis dit pourquoi pas aller au costumier. Donc j'ai fait un stage au costumier. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai fait un stage aussi aux accessoires et tout ça. Et finalement, en discutant avec les professionnels et en me rendant compte, que la mode, ça m'intéressait, mais c'était plus une passion qu'un métier que je voulais faire au quotidien, j'ai changé un peu de voie et j'ai décidé de faire un CAP en ébénisterie. Donc j'ai un CAP et un brevet des métiers d'art en ébénisterie. Et je suis restée très en contact avec l'opéra, je suis revenue faire quelques stages, mais cette fois-ci vraiment en construction et un tout petit peu de machinerie, mais c'était vraiment pas trop, c'était pas plus ma formation que ça, donc j'ai fait vraiment de la construction. Et voilà, et puis ça m'a amenée ici parce qu'ils ont gardé mes contacts, j'ai eu l'occasion de travailler une fois pour eux pendant des vacances scolaires, j'avais pas encore fini ma formation. Ils ont gardé mon contact et ils m'ont rappelé et puis je suis arrivée là et je suis toujours là. Voilà.
Et du coup, pour ma part, je sors de la même école. Donc, j'ai fait un CAP et un bac pro en ébénisterie à Arsonval. Et du coup, durant un de mes stages ici, j'ai découvert le métier de constructeur et de machiniste. Et en même temps, j'ai découvert qu'un menuisier partait à la retraite juste pile poil à la fin de mes études. Donc, j'ai embauché direct après.
Mais on est tous les deux plus constructeurs de base et on est devenus machinistes par la force des choses en travaillant ici, quoi.
Votre décision de travailler dans cet opéra, ou enfin dans ce théâtre plutôt, il y avait une raison particulière?
Alors pour ma part, c'est vraiment la grande polyvalence du métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas, enfin en tout cas au grand tête de tout, on n'est vraiment pas simple constructeur, on n'est pas simple machiniste, on n'est pas simple cintrier. Il faut savoir que dans certaines maisons, dans les grosses maisons d'opéra, un cintrier est cintrier. Un machiniste, il peut être machiniste cour et machiniste jardin. C'est-à-dire qu'il ne traverse même pas le plateau. Voilà, où il y a des peintres, ils vont faire que des ciels, ça va être leur spécialité. Donc dans les plus grosses maisons, tout d'un coup, ça devient un peu plus fermé et ici, on est vraiment extrêmement polyvalent. Pour ma part, voilà, je suis constructeur, je suis l'adjoint, je fais les plans, je fais de la serrurerie, donc tout ce qui est soudure. Je fais un petit peu de peinture, ce qui est pas ma grande spécialité, mais j'en fais un petit peu. Je suis SIAP, donc je suis aussi chargé un petit peu de la sécurité incendie. Je suis chauffeur poids lourd, machiniste, cintrier, enfin voilà, une très très grande polyvalence. Et du coup, c'est ça qui est juste super, donc qui met des difficultés aussi, parce qu'on peut pas être bon partout. Mais par contre, ça permet de ne pas s'ennuyer du tout.
Et puis, vous maîtrisez un décor du début jusqu'à la fin, en fait.
Ah bah, complètement. De la création...
Fin du processus.
De la mise au plan jusqu'au montage et au démontage, quoi.
Pour moi, c'est un peu la même raison. Déjà, au tout début où je suis arrivée, c'était aussi une question de localité. Rester à Tours, pour moi, c'était aussi intéressant. Et en effet, le fait qu'on soit dans... J'ai fait j'ai été voir d'autres opéras un peu plus grands et c'est vrai que le charme de cette maison, c'est toujours un peu une galère, on va dire, avec des termes familiers. C'est un peu une galère, mais c'est tellement plaisant de se dire, bah, un jour je vais aller donner un coup de main à la peinture et puis je vais apprendre une technique. Et puis le lendemain, je vais aller monter le superbe décor qu'on a fabriqué l'année dernière. Enfin voilà, c'est vraiment cette polyvalence qui est vraiment... Enfin moi j'adore, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir de maintes et maintes fois. Ouais, et bah, c'est tout. C'est à peu près pour les mêmes raisons. C'est un charme, c'est une galère, mais c'est un charme qu'on apprécie et on aime ça, voilà.
Tout à l'heure, vous avez vu polir un décor. Qu'est-ce que c'est ?
Polir ?
Sur quel décor vous travaillez, oui, c'est ça ?
Le décor que vous travaillez juste avant que...
Donc là, en ce moment, on est en train de travailler sur Lucie. Donc, opéra qu'on va jouer en janvier. Voilà, donc là, il faut qu'on finisse. En gros, à la fin de la semaine prochaine, ça serait bien qu'on ait presque fini. Parce que juste après, on va enchaîner sur un autre, puis un autre. Donc, avec des délais très très courts.
Et puis, tout est calculé dans le sens où... tout est calculé dans le sens où nous, en construction, il faut qu'on ait fini à la fin de la semaine prochaine. Mais il y a encore 3-4 semaines de peinture après, derrière. Parce qu'ils sont obligés de nous attendre à chaque fois... Enfin, ils prennent au fur et à mesure de ce qu'on fabrique. Donc, faut toujours prévoir dans le timing le délai finition. Donc, voilà.
Et en l'occurrence, nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des délais de retard. La date du concert d'opéra est planifiée et on ne peut pas changer tout au dernier moment. On ne peut pas décaler d'une journée. Contrairement à X travaux qu'on pourrait faire, il peut y avoir un petit décalage. Nous, la deadline, c'est la deadline, quoi. C'est tout.
Donc, vous avez dit que vous aviez, enfin, que vous faisiez divers tâches. Et est-ce que, enfin, dans le fait de faire toutes ces tâches, vous pourriez vous considérer comme des artistes ?
Alors, pour ma part, du tout. Je suis technicien. Je ne suis pas artiste. Il faut une part d'artiste, enfin, une vision artistique, évidemment, de créativité quand même, parce qu'on... On doit avoir un peu cette âme derrière nous, mais on n'est pas des créatifs, on est des techniciens. Le créatif va être le scénographe qui va nous présenter, qui va créer la maquette et qui va nous la présenter. Nous, on doit respecter son choix.
On est obligé d'avoir l'œil créatif sur quand on met en place des techniques de fabrication. Bien sûr, faut qu'on ait l'idée du visuel à la fin. Mais c'est vrai que nous, on a plus cette casquette de technicien, on cherche les méthodes... À la rigueur, ce sera peut-être plus Bruno qui à la fin aura ce côté la petite patte en peinture. On est les artistes de la technique, on peut dire, à la rigueur. C'est-à-dire que des fois on va chercher des idées totalement farfelues pour un mécanisme d'un décor ou quoi.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de modifier le choix du scénographe? Parce que ça pouvait pas se faire, il y avait un petit problème sur le décor qui pouvait faire.
Alors notre but premier, c'est évidemment de répondre à sa demande. Après, il y a toutes les contraintes. Ouais. La première contrainte qu'on a tous les jours, la contrainte budgétaire. Et c'est ça déjà, premier truc qui va faire bouger le choix du décorateur, du scénographe en l'occurrence. Ça par contre, ça fait bouger beaucoup de choses. Et après, bah, du coup, on va toujours faire en sorte de respecter son choix après ça. Donc on va, les questions de sécurité, de solidité, de transport, parce qu'il ne faut pas oublier que le décor, il faut le transporter dans des camions, et que ça soit transportable manuellement, parce qu'il n'y a pas de machine pour porter les décors. Donc il faut que ce soit pas trop lourd. Donc plein de questions qu'on se pose et auxquelles on doit répondre tout en respectant le choix artistique du scénographe. Alors évidemment, des fois c'est compliqué, mais en l'occurrence on a toujours répondu à la demande.
De toute façon, avant que le choix fixe, le décor soit fini, fixe dans sa tête, en général on a plusieurs rencontres avec le scénographe, plusieurs présentations. Des fois, c'est la bonne maquette qui marche, mais finalement, il va dire « bah, je reviens dans 2 semaines avec une nouvelle maquette et on en discute ». Enfin, voilà, on a aussi beaucoup d'échanges. Mais après, une fois que...
Oui, en l'occurrence, la maquette de mon bel inconnu a beaucoup changé entre la présentation de départ et... En l'occurrence, le décor qu'il y a sur scène actuellement, mon bel inconnu, a beaucoup évolué entre la première présentation et la deuxième.
Là, gros changement qu'il y avait sur cette maquette, c'est l'escalier. À l'origine, il y avait deux escaliers. Il n'y en a plus qu'un. Et du coup, il y a eu plein de changements en cours de route. Mais toujours en respectant le choix artistique. Donc, il faut ménager la monture tout le temps.
Les susceptibilités de chacun.
Et dans cette profession, vous avez des horaires fixes? Ou si par exemple, si une tâche n'a pas été finie à la fin de la journée, comme c'est fait peut-être un emploi du temps, est-ce que vous pouvez le modifier ou rester plus, devez plutôt rester plus tard pour la finir? Vous avez une organisation particulière?
Alors, on a des horaires plus que variés. On travaille évidemment quand les gens ne travaillent pas. Donc des gens travaillent en l'occurrence le soir pour les spectacles, les jours fériés ou les dimanches. Si jamais il y a une tâche qui n'est pas finie, évidemment, on pousse un peu plus loin. Un démontage après un spectacle, il faut charger les camions de toute manière. Donc s'il faut pousser d'une heure, on pousse d'une heure. Mais en l'occurrence, les plannings sont relativement bien faits. Et donc du coup, c'est vraiment occasionnel où on change notre planning. Mais le planning de cette manière avec des horaires complètement variables et variés.
Non, pardon.
Et dernière question. Quel était le plus long décor que vous avez fait en durée?
En durée de fabrication?
Oui.
En durée de fabrication, sans hésiter, c'est la caravane du Caire. Parce que c'est un décor qui, en l'occurrence, sans le Covid, on n'aurait pas pu le faire. On ne serait pas rentré dans les délais. Ou alors il aurait fallu trouver des leviers, et en l'occurrence, on ne les a pas. Parce que du coup, le Covid nous a permis d'avoir pleinement notre temps plein à l'atelier. Et en même temps, on avait le plateau complètement dédié à la peinture.
Parce que l'espace, il servait d'atelier.
L'atelier peinture étant relativement étroit, le plateau nous a permis d'avoir de la place.
Et ce, parce qu'il n'y avait pas de concert.
Voilà, c'est en l'occurrence le Covid qui nous a sauvés à ce moment-là. Sinon, je ne sais pas comment ça rentrait, très clairement. Il aurait fallu trouver des solutions encore. Parce que, comme d'habitude, la date ne pouvait pas être modifiée. En l'occurrence, le Covid aurait été très compliqué, en plus pour ce décor-là. Étant donné que le spectacle demandait beaucoup de personnel artistique, danseurs, chœurs et tout ça, il aurait fallu, pour respecter les contraintes Covid, louer des adjeco pour pouvoir faire des loges. Enfin, ça aurait été heureusement que Covid a tout annulé a reporté simplement la représentation de la caravane du Caire. Mais sinon, ça n'aurait pas été réalisable, concrètement, possible.
Pareil, je suis arrivée il n'y a pas longtemps. et en l'occurrence, on m'a appelée en renfort sur la caravane du Caire parce qu'il y avait du boulot. Donc c'est aussi le plus long décor que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà.
Moi, j'aimerais bien juste savoir quel est le décor qui vous a marqué, vous, personnellement, pour l'instant, dans votre vie de machiniste, de créateur, finalement, de décor. Si vous deviez en garder un.
Bah, moi, je l'ai tout de suite. C'est la caravane du Caire pour moi, justement. Parce que déjà, c'est le décor sur lequel on m'a appelé en renfort. C'est le premier décor officiel que j'ai fabriqué. Non, c'est pas faux. S'il y avait des songes, mais c'est autre chose. Pendant mes stages, j'en ai fait d'autres des décors, mais c'est vraiment le premier gros décor que j'ai fait. Et il était en l'occurrence énorme. Et j'étais contente. J'ai eu une grosse plage de travail en menuiserie. Et aussi une énorme plage de travail en peinture, donc j'ai pu développer pas mal de compétences et c'était vraiment chouette. Et d'autant plus, j'ai travaillé sur le spectacle, j'étais au Cintre justement, et dans la mise en scène avec tous les jeux d'acteurs, de danseurs et tout ça, c'était vraiment un très beau décor et très beau spectacle de manière générale. Donc moi je dirais que c'est celui-là.
J'en ai fait beaucoup plus, mais j'aurais tendance à dire à peu près la même chose. Même si en fait chaque décor est un peu une aventure, donc c'est plutôt un choix difficile. Mais c'est vrai que là dernièrement, la caravane du Caire reste un décor qui sort du lot.
Un gros challenge, on va dire.
Voilà, en termes de volume et puis de travail et de résultats. Après, faire un choix, c'est compliqué. Il y en a qui
nous plaisent beaucoup moins, c'est plus facile, mais ceux qui plaisent vraiment, c'est difficile comme choix.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus en direct du lycée Jean Monnet. Et mais Maëlys, as-tu déjà mis les pieds au Grand Théâtre de la ville de Tours ?
Bien sûr, dans le cadre de la spécialité HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, nous sommes allés visiter le Grand Théâtre de Tours, le mardi 24 janvier 2023, situé rue de la Sellerie. Lilou, Sacha et moi-même allons donc vous parler de son histoire, de son architecture.
Et particulièrement de ses anecdotes.
Effectivement, et pour commencer, Sacha va nous détailler l'historique de cet impressionnant bâtiment.
Eh bien, dans un premier temps, ce bâtiment célèbre de la ville de Tours n'a pas toujours été celui que l'on connaît aujourd'hui. En effet, avant l'année 1794, le Grand Théâtre était une église qui avait été acquise par un citoyen nommé Monsieur Bûcheron. Cette même année, l'église est alors transformée en salle de spectacle pouvant accueillir près de 800 personnes.
Mais c'était donc un bâtiment religieux ? On n'y aurait jamais pensé en voyant maintenant ce qu'il est devenu.
Oui, c'est effectivement le cas et ce n'est seulement qu'à partir de 1796 que la salle de spectacle est inaugurée. On peut assister à sa première représentation le 30 décembre de cette même année. Dès lors de la salle d'accueil, aussi bien des représentations théâtrales comme des pièces de Molière ou de Marivaux que les opéras de Mozart ou de Rossini.
Nous allons maintenant donner la parole à Maëlys qui va nous parler du développement de ce lieu.
Eh bien, pour continuer, chers auditeurs, en 1860, Monsieur Bûcheron tente de vendre sa salle à la ville de Tours, mais cette dernière refuse. C'est alors qu'en 1867, la ville revient sur sa décision et lance la démolition de l'édifice l'année suivante pour pouvoir le reconstruire au même emplacement et en faire un théâtre plus moderne et plus impressionnant visuellement parlant. Cependant, les travaux sont interrompus en raison de la guerre et ne reprendront qu'en 1872. C'est à cette même date que les travaux s'achèvent et que le théâtre est inauguré et obtient le titre de Théâtre municipal de Tours.
Mais attendez, il me semble que le théâtre a été anéanti à un moment, non ?
Oui, malheureusement. Seulement après 10 ans de son ouverture, un incident le détruit intégralement, à l'exception de 4 murs de la façade qui ont résisté afin de remédier à ce triste incident. Un concours est ouvert dans le but de reconstruire un nouveau théâtre sur le même terrain. Cette mission est alors confiée à l'architecte tourangeau Jean-Marie Haridon, sélectionné par un jury dont l'architecte de l'Opéra de Paris, Charles Garnier, est membre. L'un des objectifs essentiels de cette reconstruction est que le nouveau bâtiment devra renvoyer une image de richesse et faire honneur à la réputation de la France. Ces travaux de réédification ne dureront pas moins de 6 ans.
Pour continuer, en 1889, le deuxième théâtre est inauguré et reste le centre de la vie mondaine tourangelle. Néanmoins, le théâtre de Tours n'ouvrira ses portes qu'en 1915. Par ailleurs, l'entre-deux-guerres discerne l'apogée du grand théâtre, mais son succès subit vite une interruption due à la naissance d'une nouvelle guerre. L'on s'intéresse à présent à l'architecture du bâtiment. Et toi, Maëlys, as-tu remarqué des éléments concernant l'architecture ?
Bien sûr, l'architecture du théâtre ressemble fortement à celle du célèbre opéra de Paris. Il se compose d'un immense escalier central, de salles dites à l'italienne et de magnifiques tableaux du peintre français et représentant du mouvement orientaliste Georges Clairin. De plus, la cage d'escalier, par exemple, comporte une fresque au plafond montrant le cardinal du Bellay présentant François Rabelais à François Ier, roi de France, accompagné de sa cour. Et de chaque côté, deux petits panneaux représentant l'un le théâtre au Moyen-Âge et l'autre les gloires de la Touraine au XIXe siècle. Le grand hall d'entrée est en forme de rotonde rappelant l'époque romaine avec ses colonnes en reproduction de marbre.
Oh, ceci me fait penser à une anecdote qui concerne la construction et qui est visible dans tout le théâtre. En effet, lors de la reconstruction, une erreur de commande a été commise concernant le blason de la ville de Tours. Ce blason est constitué normalement de 3 tours surmontées de 3 fleurs de lys, emblème de la royauté. Toutefois, au lieu de retrouver la majestueuse fleur, les artisans ont représenté 3 étoiles, et cela sur chaque blason présent dans le bâtiment.
Et concernant les éclairages, la façade du bâtiment est éclairée dans les tons bleu-violet à la tombée de la nuit, de façon à ce que le relief de la structure soit mis en avant. Pour ce qui est de l'intérieur, la gestion de l'éclairage se déroule en 2 temps. En effet, une partie des éclairages est d'abord éteint, marquant alors l'arrivée de la scène. Puis lorsque le reste des éclairages s'éteignent en plongeant les spectateurs totalement dans la pénombre, c'est le signe que la pièce commence et c'est à ce moment précis que le spectateur devienne silencieux.
Oui, c'est vrai, je m'en souviens. C'est ce qui s'est passé lorsque nous avons assisté à la répétition générale de Lucia de la Mère Mort. Il y avait aussi dans la salle principale des balconnets et des places d'honneur qu'on appelle les loges. Par ailleurs, en dessous de certains étages, des noms de célèbres écrivains et humanistes sont inscrits sur des moulures blanches, telles que Victor Hugo et Beaumarchais. Des frises représentant des fruits et des feuilles de vigne ornent ces blasons.
Pour conclure, le Grand Théâtre de Tours est aujourd'hui classé monument historique et dispose d'une capacité de 950 places et de son propre orchestre symphonique permanent, situé juste devant la scène. Lilou, fais-nous part de tes impressions sur ce splendide lieu.
Après avoir visité cet opéra, nous avons été ébahis devant la somptueuse façade et ses statues. Nous n'aurions jamais imaginé que l'architecture soit aussi grandiose et développée à l'intérieur.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Lilou. Il y a aussi une histoire impressionnante derrière ce simple bâtiment. De même, son fonctionnement actuel le rend fascinant, puisqu'il est passé de théâtre à opéra.
Sur ce, nous vous remercions pour votre écoute. C'était
Lilou,
Maïlis
et Sacha sur Radio Campus. Et nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt, chers auditeurs.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons interviewer Manon qui nous rejoindra en cours de route, ainsi que Lola et Nabil qui, en février dernier, sont allés voir l'opéra Lucia de la Mère Mort. Peux-tu m'en dire plus, Amine ?
Oui, bien sûr. Cet opéra est avant tout une pièce tragique composée de Gaetano Donizetti qui se divise en deux parties de trois actes.
Dis-moi Nabil, toi qui assistais à cette pièce, tu peux me dire ce qu'elle raconte ?
Eh bien, c'est deux familles venant d'Écosse médiévale qui s'opposent, sans savoir que leurs héritiers Edgar et Lucie s'aiment en secret.
Un peu à la Roméo et Juliette, quoi.
Oui, exact. Sauf que là, c'est italien.
Vous allez me faire regretter de ne pas y être allé. Et le décor, c'était comment ?
Impressionnant. Les murs qui sortent du plafond pour changer les lieux donnaient un aspect dynamique. Par contre, les décors, eux, ils restaient tout de même simples et minimalistes.
Mais ils chantaient en français ou en italien ?
Français. Et on a eu de la chance. D'ailleurs, ça a été retranscrit en français par Alphonse Royer et Gustave Weiss en 1839, au théâtre de la Renaissance, et heureusement, autrement on n'allait rien comprendre.
Oui, heureusement. Et d'ailleurs, toi Lola, tu nous as parlé des décors, mais pas de ton expérience.
Merci de demander, Lina. J'attendais que ça. Eh bien, j'avais jamais été à l'opéra avant, donc je m'étais faite une image surdimensionnée de ce lieu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus grand, mais par contre, les lumières, les lustres et les moulures, ils étaient vraiment impressionnants.
Et les chanteurs et chanteuses, vous les entendiez même sans micro ? Tiens, voilà Manon. Peux-tu répondre à cela ?
Désolée du retard. Vous parliez de la pièce de Lucia de la Mère Mort ? J'y étais aussi. Et personnellement, la voix de Lucie m'a interpellée. Elle était tellement aiguë et puissante que je l'ai entendue alors que j'étais assise tout au bout de la salle. Tu sais comment on appelle ce genre de voix, Amine ?
Oui, bien sûr. On appelle ce type de voix soprano.
C'est exactement cela. On voit que tu as bien révisé le dossier que nous a donné Mme Tatem. Et toi, Nabil, tu peux nous dire quelques mots sur la voix des hommes ?
Alors moi, j'ai tout de suite su qui étaient les méchants et gentils grâce à leur voix. Le frère de Lucie avait une voix plutôt puissante, dite baryton, c'est-à-dire une voix située entre basse et ténor, donc moyenne. Et cela reflétait bien son rôle d'antagoniste, contrairement à celui qui est fiancé secrètement à Lucia, qui lui avait une voix moins basse, dite ténor.
C'est vrai que maintenant, tout devient plus clair. De là où on était, on voyait la fosse de l'orchestre, qui était très impressionnante, au vu de la multitude d'instruments qu'il y avait. Et voilà! Nous espérons vous avoir donné envie d'aller voir cet opéra et nous vous laissons maintenant sur cet extrait de l'opéra que nous avons enregistré de Lucia de la Mère Mort.
Oh.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Tours. Aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette émission, sont présents Tess, Loan, Liliana et Maë. Et notre sujet du jour sera celui d'un opéra qui a marqué l'attention des élèves de première de la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie du lycée Jean Monnet. Tess, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oh mon bel inconnu est un opéra dont le livret a été écrit par le dramaturge Sacha Guitry. Le compositeur de cette pièce se nomme Reynald Hahn. Loan, tu nous racontes l'histoire de cette comédie musicale ?
Bien sûr. L'histoire se déroule dans les années 30, dans une famille classique. Un chapelier, Prosper Aubertin, s'ennuie. Il ne supporte de moins en moins la présence des trois femmes avec lesquelles il vit. Ou du moins, il ne supporte pas le bruit et les plaintes de celles-ci. Et décide, pour se distraire, de poster une annonce dans un journal afin de trouver une amante.
Une fois son annonce postée, il reçoit quelques réponses parmi lesquelles celles de sa fille, de sa femme et de sa servante.
Eh oui, la fille, la mère et la servante ont vu l'annonce du père sans imaginer que l'homme, cherchant une maîtresse, n'était autre que le père, l'époux et l'employeur.
Prosper décide donc alors de piéger les trois femmes. Pour cela, il leur donne rendez-vous dans une villa qu'il a louée spécialement pour l'occasion.
La maison est spacieuse et épurée. Quelques jours passent et la fille, Marianne, fait la rencontre d'un homme qui devient alors son réel amant.
La mère comprend en arrivant à la villa qu'elle a été bernée et la servante tombe sous le charme du propriétaire de la maison.
Finalement, le père a obtenu ce qu'il souhaitait, du calme. Car oui, sa fille s'est mariée avec son amant, la servante en trouvant son Jules et sa femme se sont arrêtées de se plaindre. Tout rentre finalement dans l'ordre.
Mais n'y avait-il pas un autre personnage ?
Ah mais oui, il y avait un muet aussi.
C'est un peu le confident de la famille. À chaque fois qu'il y a un rebondissement, il les aide à prendre des décisions malgré son handicap, ce qui provoque des situations drôles.
D'ailleurs, à la fin de l'opéra, il n'est plus muet. Il part en Écosse pour trouver un médecin spécialisé. Ce qui, selon moi, est un petit peu tiré par les cheveux, si vous voulez mon avis.
C'est pour cela que l'opéra est du genre du comique.
Oui, tout à fait. Mais était-ce vraiment un opéra ?
Oh non, certainement pas. Les chanteurs parlaient trop pour que ce soit un opéra.
En effet, cette pièce est considérée comme une comédie musicale où alternent les moments joués et chantés, ce qui nécessite beaucoup d'énergie pour les chanteurs-acteurs.
De plus, l'orchestre, qui selon moi est un élément très important, car les musiques aident à mieux comprendre les personnages ou nous faire rire, et les décors nous donnaient vraiment l'impression d'y être. Cet opéra, ou cette comédie musicale comme vous voulez, était très intéressante.
Cependant, pour moi, la salle était trop petite et notre emplacement dans celle-ci n'était pas optimal. Personnellement, je ne voyais malheureusement pas le haut de l'escalier, ce qui me faisait rater beaucoup de scènes importantes. Mais je suis d'accord avec toi, l'ambiance était légère et la pièce était comique.
Et comment étaient les chanteurs-comédiens ?
Ils étaient très bons. Leur voix était puissante et très jolie à entendre. Les musiques rythmaient l'action sur scène.
D'ailleurs, les décors étaient très colorés. Il y avait un fond bleu avec de nombreux chapeaux de couleurs variées accrochés au mur pour représenter le magasin.
Il y avait un escalier imposant que les comédiens devaient monter et descendre des dizaines de fois, si ce n'est plus. Ça devait être sportif.
J'espère que nous vous avons donné envie de voir la pièce. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'était Radio Campus.
Donc bonjour à tous, donc après avoir parlé de l'histoire du grand théâtre, nous allons évoquer avec Nabi, Valentine, Agathe et moi-même Lola, son actualité et ses bons plans. Pour le programme des semaines à venir, donc tout d'abord le samedi 11 mars à 19h se déroulera l'écho de la Terre du Milieu et de Westeros, de l'orchestre Necolite Orchestra. Donc c'est un concert en hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux. Pour les tarifs de ce concert, donc les tarifs pleins seront à 45€ pour les adultes et pour les étudiants à 35€. Donc l'orchestre rock vous propose des interprétations tantôt mélodiques et symphoniques, tantôt très rock, donc pour une durée d'1h55. Puis donc le dimanche 12 mars, donc le lendemain, à 17h, se déroulera donc un chemin baroque de l'ensemble Consonance. C'est une grande fête baroque pour une durée d'1h30. Ainsi que le samedi à 18h, donc à 20h, et le dimanche 19 mars à 17h, se déroulera un hommage à Mozart et Beethoven de l'âme du cœur et de l'élégance des notes. Pour Mozart, donc, ce sera plutôt une ouverture sur les noces du Figaro de Beaumarchais et un superbe concert de flûte ainsi que de harpe, Puis pour Beethoven sera présentée une symphonie nommée La Pastorale.
Nous avons également réussi à vous trouver des bons plans. En effet, suite à la situation sanitaire, les abonnements sont remplacés par un système de cartes fidélité qu'on appelle les cartes mélomanes. Elle vous permettra de bénéficier d'une réduction de 20% sur l'ensemble de la saison, sauf les concerts jeunes publics, les concerts bébés, ainsi que pour les tarifs solidarité et personnel.
Et cette carte est valable un an et elle est disponible pour une ou deux personnes.
Vous pouvez aussi visiter le théâtre avec un guide. Cela est sous réservation, donc toutes les prochaines sont complètes, sauf celle du 9 mai à 14h45, mais il faut aller s'inscrire sur le site directement.
Donc dépêchez-vous.
Si vous avez moins de 28 ans, vous pouvez avoir le tarif spécial sur toutes les représentations. Et si vous décidez d'acheter votre billet le soir même du concert, la place est au tarif unique de 7 euros. Pour les étudiantes de l'Université de Tours, vous pouvez bénéficier du passeport culturel étudiant et accéder toute l'année à des centaines de manifestations culturelles à petit prix auprès des 80 structures culturelles partenaires. À l'Opéra de Tours, une offre spécifique a été créée. Une place achetée sur un concert ou un opéra égale une invitation et une répétition générale d'un autre ouvrage. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le 02 47 60 20 00, qui est le numéro de l'opéra. Et l'opéra se trouve 34 rue de la Sellerie à Tours, près de l'arrêt de tram national.
Vous devez respecter certaines conditions durant la représentation comme...
La représentation commence à l'heure précise.
La salle est ouverte une demi-heure avant le début.
La nourriture ainsi que le boisson sont strictement interdits.
Filmer ou photographier à l'intérieur est aussi interdit.
Les retardataires ne peuvent pas accéder à la salle avant l'entracte.
Le théâtre a aussi mis en place des repas à 1 euro proposés aux étudiants à l'entracte de chaque spectacle. Cette nouvelle mesure permet au public touché par les crises sanitaires et économiques de bénéficier d'un repas complet à un prix minime. Donc cela permet d'attirer un public de tout âge et permet de cultiver les jeunes générations.
C'est une initiative de Laurent Campellone, qui est un chef d'orchestre à l'Opéra de Tours. Elle est également le directeur. Il a dirigé et enregistré plusieurs compositions, dont celle de Massenet, Le Mage, en 2013, Saint-Saëns, qui se nomme Les Barbares, en 2014, et pour finir, Offenbach, Colorature, en 2019.
Merci pour votre écoute. Merci également à Lola, Valentine et Nabi pour tous les bons plans. À la prochaine.